Une station iHeartRadio.
De retour à Prends ton gaz égal, Michel Tédallaire avec vous. On est mardi le 28 avril et j'aime ça, ces parties d'émissions-là ou ces journées, surtout le mardi parce qu'on a toujours une émission qui est très chargée. On n'a pas le temps de s'ennuyer et toujours des sujets super intéressants. Et on va continuer dans cette veine-là parce que je vais parler à quelqu'un de très intéressant, une personne impliquée, une personne qui vit ses inquiétudes par rapport à tout ce qu'on vit et qui d'ailleurs dernièrement a fait une super capsule qui s'appelle « Pardon papa et aux aînés ». Donc j'ai avec moi une super personne, ceux qui le connaissent déjà l'adorent et ceux qui ne le connaissent pas, ben vous allez apprendre à le découvrir aujourd'hui. Donc on parle avec Yvan Pion, le fredonneur. Bonjour Yvan.
Ta-da-da-da-ta-da, je fredonne. Bonjour Michel, comment vas-tu?
Ça va très bien, toi?
Ça va bien, j'ai toujours une chanson dans la tête. Pour moi, c'est la meilleure vitamine, la bonne humeur, la musique, les souvenirs, etc. Alors, je suis bien content aujourd'hui qu'on ait le temps, l'occasion de discuter ensemble.
Bien oui, parce que, comme je le disais en entrée de jeu, t'as fait cette capsule-là et j'aimerais que tu m'en parles un petit peu, mais juste avant, c'est que toi, pareil comme tous les autres, hein, on s'en sort pas, on a toutes nos inquiétudes, on a toutes nos craintes, on a toutes nos implications aussi parce qu'on veut énormément aider du mieux qu'on peut et... tu nages un peu à travers tout ça. Et d'ailleurs, il y avait un petit peu comme un cri du cœur dans cette capsule-là que tu as fait.
Oui, effectivement, cette capsule-là que j'ai créée le 25 avril dernier se retrouve avec plusieurs capsules sur ma page Facebook, Yvan Pion, le fredonneur, sur YouTube aussi. C'est des réflexions parce que quand on est moins pris dans la tourmente du temps, des commissions, des loisirs, etc., on a plus de temps pour s'asseoir. Et moi, je m'assois dehors la plupart du temps pour faire mes capsules. J'écoute les oiseaux, j'écoute le vent, puis là, je réfléchis. Il y a des souvenirs qui remontent. À deux reprises, j'ai pensé très fort à mon père. J'avais fait une première capsule qui s'intitulait « Merci papa » et à Sol aussi, Marc Favreau, et à Yvon Deschamps, parce que c'est des personnages qui ont marqué ma vie. Et puis le 25 avril, 9 jours plus tard, là, j'ai vraiment ressenti le besoin de m'excuser auprès de mon père, parce que dans la fin de sa vie, mon père avait presque 81 ans, eh bien, le Parkinson, le diabète avaient fait son œuvre sur lui. Alors, il était dans un CHSLD. Et c'est une époque où durant laquelle, moi, je courais partout. J'étais plus dans le show business que dans les affaires sociales à cette époque-là. Et donc, j'ai pas été suffisamment présent. Mais j'aurais pu l'être plus présent, Michel. Alors, ce moment de réflexion-là, ça m'a permis de demander carrément pardon à mon père et à me pardonner moi aussi, à comprendre pourquoi j'ai adopté le comportement que j'ai adopté, comme 90% malheureusement de la population, selon les statistiques officielles, qui ne se font pas très présents dans les résidences pour aînés et dans les CHSLD. On les laisse tout seuls. Et pour moi, Michel, la solitude, ça joue beaucoup sur le système immunitaire et je suis certain que si nos aînés pouvaient voir leurs petits-enfants, leurs enfants, leurs anciens compagnons de ligue de quilles, ben ils vivraient beaucoup plus longtemps.
Oui, ben probablement pour certains cas, il y a les gens aussi qui vivent très longtemps, mais qui sont amoindris par toutes sortes de choses. Et eux, ils attendent. À la blague, ça va toujours me rappeler une entrevue que Radio-Canada, c'était-tu Radio-Canada ou TVA? Excuse-moi, j'ai un blanc, c'est un des deux. Je peux pas me tromper beaucoup une fois qu'on dit les deux. Mais donc, ils s'en vont interviewer une personne dans un centre d'aînés qui venait d'avoir ses 100 ans. Sauf qu'il avait fait aucune vérification avant. Il n'avait pas parlé avec avant. C'était vraiment fait ce que ça vous tente de passer à la TV. Puis là, ils ont arrivé avec les caméras puis ils ont commencé à l'interviewer tout de suite en direct. Mais la personne était tannée de vivre. Donc, c'est la première chose qu'elle a dit. Je vais résumer ses mots parce que si je prends directement ses mots, c'est peut-être pas très radiophonique. Mais en voulant dire, tu sais, moi, j'attends juste que le petit Jésus vienne me chercher parce que je t'annonce.
Ouais, je comprends. Donc, c'est ça. C'est aussi parce qu'on sent beaucoup on se sent inutile de la façon dont l'organisation de nos sociétés sont organisées, et ça s'est accéléré beaucoup, ça, Michel, depuis 40 ans, depuis le début des années 80. On fonctionne sur la rentabilité et la productivité. Donc, chaque humain, on est confronté à un principe qui est l'utilité. Quelle est mon utilité dans une société qui est axée sur la production et la consommation aussi? Alors, évidemment, quand on est dans un CHSLD et que personne vient nous voir, qu'on ne nous demande pas notre opinion, ni même de nous chanter leur chanson ou de nous raconter des anecdotes, ben on se dit « à quoi je sers, moi? » Alors, c'est sûr que c'est déstabilisant et c'est, ça peut être une source de détresse pour les aînés, tout à fait.
Absolument. Et là, ben on fait baisser, comme tu disais tout à l'heure. Moi, quelque part, je crois exactement à ce que tu as dit. J'avais déjà eu une réflexion du genre, ça doit faire affecter le système immunitaire. C'est incroyable.
Ouais. Oui.
Non, je jasais avec une personne qu'elle me disait, justement, elle me parlait d'une anecdote d'une personne que le docteur lui avait donné 6 mois à vivre. Elle avait le cancer et elle est arrivée à l'endroit où elle était. Elle avait toujours le grand sourire. Elle a changé la vie des personnes. Ouais. Et d'ailleurs, ça l'a amené une des personnes qui a été changée par cette personne-là à écrire un livre. Et...
Ah.
La chose qui est intéressante, c'est qu'elle a vécu 4 ans supplémentaires.
Le miracle.
Eh oui, donc le sourire a une importance.
Oui, tout à fait. Et tu sais, Michel, moi je demeure à Saint-Hyacinthe. Et étant donné que je suis dans le domaine de la musique et des affaires sociales en même temps, communautaire, je rencontre beaucoup de gens de différents horizons. Et l'été dernier, au mois d'août, je me suis fait une nouvelle amie. C'est une amie assez extraordinaire parce qu'elle a 99 ans. Et à 99 ans, elle s'appelle Madeleine et elle enseigne encore le piano classique. Je connais ses élèves. Elle a des élèves qui sont des adolescents et elle a des élèves qui ont 60, 70 ans qui viennent encore la voir. Et durant la période de confinement, ce qui est très difficile pour Madeleine, c'est justement de ne pas pouvoir voir ses élèves, de ne pas pouvoir transmettre son savoir. Alors, c'est très important aussi de nourrir une passion toute notre vie, parce que dans une rencontre qu'on a fait récemment, on placote beaucoup au téléphone, Madeleine et moi, puis dans le fond, elle me dit, « Yvan, tant que je pourrai exercer ma passion, ma santé va me suivre, il n'y a pas de doute. » Alors, même lorsque... Moi, j'ai 2 fils, Michel. Il y en a un qui est rendu à 24, l'autre à 26 ans. Et lorsque je m'inquiétais pour mon plus jeune qui semblait se promener dans toutes sortes de directions puis pas trop savoir quoi faire de sa peau, je lui disais... Son prénom, c'est Raphaël. Je lui disais, « Raphaël, c'est quoi ton feu? Où il est ton feu? Qu'est-ce qui te fait vibrer? » Et puis, peu importe si c'est pas un métier hyper spécialisé, hyper payant, il y a des gens qui s'emmerdent à mourir dans des métiers payants. Vaut mieux avoir quelque chose qui nous allume, qui nous motive, qui nous enthousiasme, et ainsi on sera plus heureux, peu importe jusqu'à quel âge on va vivre. Voilà. Alors, je trouve ça fascinant et je sais qu'après l'entrevue, Madeleine attend mon appel parce qu'aujourd'hui, elle est allée chez l'ophtalmologiste. Mais oui, les services reprennent progressivement et là, elle va pouvoir peut-être se faire opérer parce que ses yeux ont des cataractes. Alors, c'est tout plein de petits aspects comme ça. Qu'est-ce que ça va changer dans sa vie si Madeleine se fait opérer pour les cataractes? Ben, elle va pouvoir redécouvrir son décor intérieur, des anciennes partitions musicales dont elle ne voit plus les notes maintenant, des anciennes photos, les souvenirs de ses amis, de ses anciens amoureux, de ses parents. C'est extraordinaire. Tu sais, quand on est conscient de ça, moi, je me rappelle des yeux de mon père, que je disais plus tôt, qui est décédé là, près de 81 ans. Ben, je voyais dans les yeux de mon père que même s'il était plus à la mode, comme on tendance à le dire, ben, il avait déjà tout vu. Et après les spectacles des Crooners, parce que j'ai fait partie du groupe Les Crooners, qui a fait le tour du Québec avec Jean Roger et avec surtout Claude Blanchard aussi au début des années 2000, ben on jasait beaucoup avec les gens qui venaient voir les spectacles. Dans le répertoire des Crooners, je te le rappelle, c'est Frank Sinatra, c'est Tony Bennett, c'est Michel Louvain, c'est Pierre Lalonde, c'est Serge Lama, tout mélangé. Oui. Et donc les gens nous remerciaient de leur faire revivre des souvenirs et ils nous racontaient plein d'anecdotes, mais même s'ils vivaient partiellement dans le passé, il y avait aussi l'œil clair, l'œil vif, l'œil de lynx qui leur permettait de comprendre ce qui se passait aujourd'hui. Et on nous disait toujours, comment ça se fait que les chansons que vous nous chantez, on ne les entend pas à la radio? Quelle est la place des aînés, même dans les médias, les talk shows? Voilà, c'est intéressant de voir que ces gens-là, il faut qu'on retourne vers elles et vers eux parce qu'il y a plein de choses qu'elles peuvent nous apprendre à chaque jour de la semaine.
Non, oui, c'est ils ont tellement d'histoires. Écoute, même de revoir. Écoute, j'ai retrouvé par hasard, je suis tombé sur les ces vieilles émissions où ce qu'on la TV se déplaçait dans des résidences de toutes sortes de villages, puis là, ils rechantaient des chansons et tout ça. Ça jouait beaucoup les années 80, entre autres. Et c'était... je suis retombé là-dessus, et là, c'est drôle, j'ai eu une réflexion du genre en me disant, mais où sont... Où c'est où que c'est passé, ça? Ceux qui vivent encore et qui ont encore mémoire de toutes ces choses-là, c'est quoi qui leur reste? Et il n'y a pas grand-chose.
C'est sûr qu'il y a eu une accélération du rythme de vie. Ça, c'est bon, on entend souvent le terme néolibéralisme là, chez les sociopolitologues, etc. Mais le néolibéralisme, c'est une idéologie qui était pour donner un second souffle au système là, qu'on connaît actuellement, le système économique. Et le mot-clé, c'était il fallait miser sur l'individualisme et la compétitivité des gens. Alors, quand on devient individualiste, on se sépare tranquillement, même si on s'en aperçoit pas, on se sépare progressivement de la communauté, du « nous », on se sépare de la famille. Donc, quand on se sépare de la famille progressivement, on perd les traditions. Ou encore, les traditions, on les connaît encore, mais on trouve ça ridicule. C'est bien moins intéressant qu'un iPhone ou des jeux vidéo. Tu sais, c'est comme, on s'endort tranquillement, même si on est surstimulé par toutes les technologies qui nous entourent. Ben, quelque part, c'est notre âme, c'est notre mémoire qui s'engourdit un peu, et puis on oublie. Tu sais, un jour, ça m'a frappé, Michel, j'ai fouillé dans une bibliothèque, puis je suis tombé sur un vieux livre de Léonard de Vinci. Et puis, cet ingénieur, peintre, artiste, etc., puis je regardais tous les plans tracés à la main à l'époque, et je me disais, mais mon Dieu, au 20e siècle et au 21e siècle, on n'a rien inventé. Léonard de Vinci avait déjà pensé à tout cela. Tu sais, c'est frappant tout ce qu'on oublie, parce qu'aujourd'hui, ça va extrêmement vite. Même les enfants sont hyper stimulés, les parents... parce qu'ils souhaitent être adéquats, leur montrent des programmes. OK, c'est le soccer, c'est le badminton, c'est la natation. On va à la bibliothèque, on va plein d'activités comme ça qui font en sorte que les enfants n'ont à peu près pas le temps d'apprendre à s'asseoir, à s'ennuyer un peu, à réfléchir. Puis moi, j'ai vécu ça dans mon enfance. On était 7 enfants dans ma famille, alors il a fallu que je m'ennuie des fois parce que mes parents ne pouvaient pas s'occuper de moi. Et c'est comme ça que je suis devenu créatif. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à la musique et aux mots. Et qui est-ce qui m'a le plus désennuyé quand j'étais petit garçon? C'était Yvon Deschamps, un 33 tours, et Sol, Marc Favreau, le pauvre petit moi.
Pauvre de petit moi, l'heure.
Voilà, je pense qu'on va partir une revue, une comédie musicale, toi et moi ensemble, ça va être Michel et Yvan. Toi, tu vas faire Sol, moi, je vais faire Yvon Deschamps. Ah ben, tabarnouche! On risque d'avoir beaucoup de plaisir à faire rire les gens.
Ouais, revivre une mode. Moi, j'ai été élevé sur Tigus et Timus, entre autres aussi.
Ah, regarde donc ça! Hey, eux autres, ils étaient drôles avec les harmonicas de toutes les dimensions, ou à peu près.
Oui!
Mais c'est ça, cette dimension-là. Moi, j'ai connu aussi, j'ai eu le plaisir, Michel, de travailler avec Gilles Latulippe au Théâtre des Variétés en 2000. On avait monté une revue musicale avec les Crooners, mais pour rendre hommage au chanteur Georges Guétari. Et travailler avec Gilles Latulippe, c'était vraiment extraordinaire parce que on sentait qu'il y avait un respect, même s'il y avait une trentaine d'années qui nous séparaient en termes d'âge. Lui, c'est comme s'il avait la pensée du coach, la pensée de l'entraîneur qui veut que ces jeunes développent leur propre talent. Alors ça, c'était vraiment extraordinaire. Et évidemment, Gilles Latulippe, il est drôle, tu sais.
Ben oui.
Et ça me fait penser qu'à l'école, Michel, les professeurs avec lesquels j'ai le plus appris, c'était pas les professeurs les plus érudits, les plus sérieux. Non, c'était ceux qui étaient capables de susciter ma curiosité en me faisant rire ou en me rappelant l'ironie de certaines situations-là. Puis l'ironie qu'on vit actuellement... en ce 21e siècle, avec les gens âgés, c'est qu'on pensait bien faire en spécialisant tous les soins qu'on leur offre, en les amenant dans des institutions solution. Mais finalement, on s'aperçoit, et même Pauline Marois en parlait en fin de semaine, l'ex-première ministre qui a été aussi ministre de la Santé au début des années 2000, et Pauline Marois le disait, non, il faut revenir aux soins à domicile, au maintien à domicile, parce que c'est là que les gens sont les plus heureux. Et moi, je le constate ici quotidiennement, Michel, parce que mon travail à temps plein maintenant, ce n'est plus d'être sur la scène, c'est de travailler dans un centre, le centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe. Hein, il existe partout au Québec des centres d'action bénévole. Oui. Nous, ça s'appelle le centre de bénévolat. Et on a beaucoup de services de maintien à domicile qui vont de la popote roulante. On va livrer au-delà de 30 000 repas à chaque année au domicile des aînés. On a un service d'accompagnement transport médical. Ça veut dire, disons, Mme Beauregard, près de chez toi, doit aller chez l'orthopédiste. On va la chercher. On l'attend sur place. Lorsque c'est terminé, on la ramène chez elle. On a le programme PAIRE aussi. Ce sont des appels téléphoniques de bienveillance à tous les jours, juste pour s'assurer que la personne va bien. On a des visites amicales. On a de la vérification de médicaments à la maison. C'est extraordinaire ce que le milieu communautaire fait pour aider les aînés à demeurer à domicile. C'est sûr que, tu sais, là, moi, je suis à Saint-Hyacinthe aujourd'hui. Toi, tu es à Lévis, je crois, Michel?
Oui.
Bon, alors là, on est dans deux régions qui sont relativement éloignées, 2 heures d'auto à peu près, mais les gens qui nous écoutent, là, invitons-les à être plus curieux, à voir c'est quoi la structure des organismes communautaires dans chacune de nos régions, de l'Abitibi jusqu'à la Beauce, en passant par Valleyfield jusqu'à Gaspé, tiens, et on va voir qu'il y a une vitalité extraordinaire des gens qui peuvent nous aider à nous sentir bien dans notre peau, dans notre cœur, avoir des loisirs, mais aussi, si on perd notre autonomie, à pouvoir demeurer à la maison avec des services comme ça qui coûtent à peu près rien, hein, parce que les gens du communautaire font tout leur possible pour faire en sorte que leur service soit gratuit ou à très, très peu de frais. Là, c'est très important. Alors moi, j'insiste là-dessus. C'est sûr que le COVID-19, la crise qu'on vit actuellement, oui, ça crée de l'inquiétude au niveau médical, mais peut-être que la plus grande leçon qu'on doit en tirer, Michel, c'est au niveau social, au niveau du lien entre les individus. C'est ça qui va nous sauver. Parce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, cet après-midi, j'ai eu la visite de 2 représentants du bureau de ma députée à l'Assemblée nationale. Et ce que les messieurs m'expliquaient, ils comptaient sur nous pour les aider, parce que nous, on se concentre surtout sur l'aide alimentaire actuellement. Mais là, ils constatent que c'est la détresse psychologique qui a tendance à prendre le dessus du pavé, et ça se manifeste autant chez les employés que chez les personnes seules, que chez même les patrons, les dirigeants d'entreprise, parce qu'évidemment, quand on arrête l'économie comme ça, ben il y aura des impacts. Il va falloir que nos gouvernements jouent beaucoup avec leur imagination, avec un souci différent, non plus un souci d'efficacité, de rentabilité, mais plus un souci de dire, OK, nous, là, on fait tous partie d'une communauté, une grande communauté québécoise, et il faut vraiment, vraiment qu'on s'entraide pour faire en sorte qu'on sauve un maximum de petites entreprises, parce que les PME, au fond, ce sont eux, elles, le tissu social et économique de nos sociétés locales. Hein. Moi, j'ai chanté à Havre-Saint-Pierre, j'ai chanté à Sept-Îles, à Baie-Comeau, j'ai chanté jusqu'au Nouveau-Brunswick parce que je visitais toutes les stations de radio francophones et je voyais dans chaque radio locale francophone les commanditaires qui soutenaient les radios. C'est souvent les mêmes commanditaires qui vont payer les chandails de hockey ou les chandails de soccer aux enfants ou qui vont donner de l'argent pour le club de patinage artistique ou l'école de musique, etc. Alors, c'est extraordinaire quand on ouvre les yeux de redécouvrir que finalement, ce ne sont pas les immenses chaînes multinationales qui font réellement vivre les humains autour de nous, jeunes et vieux. C'est vraiment tous nos petits commerçants qui inventent des produits. Pourquoi c'est le fun d'aller visiter d'autres régions? C'est que, justement, on découvre soit du vin, des variétés de pâtisserie, des costumes, des peintures. C'est ça. En tout cas, je sais, je m'emballe, Michel, mais c'est parce que ça me... Tu sais, là, on est chacun chez nous. Mais au lieu de planifier un voyage à Acapulco ou en Australie, ça serait peut-être le fun que lorsque l'activité touristique va pouvoir reprendre, bien, on en profite pour regarder autour de nous au lieu de rêver. C'est comme les astronautes qui veulent découvrir une nouvelle planète.
Exact.
À quoi ça sert?
Ça fait des
années. On apprend à prendre soin de notre planète, tu sais.
Ça fait des années, moi, que écoute, je ne suis pas allé à l'extérieur, que je fais tous mes voyages et mes choses à faire ici directement au Québec. Et j'ai envie de revenir sur une chose qu'on a parlé tout à l'heure. Tu sais, au niveau des médias, où ce qui se joue à la télévision, les choses qui passent, sont vraiment adaptées pour les gens avec le style de vie qu'on a maintenant. Maintenant, on est obligé d'être les deux en couple à travailler si on veut réussir à arriver. On a une vie effrénée, les enfants sont à la garderie. Mais pourquoi les émissions de télévision de jour, alors qu'on le sait que tout le monde est en train de travailler et qu'ils se garagent un pas de pied de l'autre, c'est qui ont le temps d'écouter la TV? C'est ceux qui ont leur vie. Donc là, mettons-leur des choses pour les aider à se rappeler. Mettons-leur de la musique. Ça a été prouvé. T'es auteur, compositeur, interprète. Je suis certain que tu vas comprendre ce que je vais vouloir dire, mais on a tellement vu d'améliorations dans certains cas d'Alzheimer où ce que les gens se sont mis à se remémorer des choses à cause de la musique. C'est incroyable la puissance.
Oui, tu as tout à fait raison. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, je suis allé chanter dans des résidences pour semi-autonomes et même beaucoup avec perte d'autonomie, là, avec un ami pianiste. Et puis, après le spectacle, ça, c'est dans la région de Trois-Rivières. Et après le spectacle, il y a une des intervenantes qui est venue me voir. Elle m'a dit, vous voyez, M. Pion, là, le monsieur là-bas assis près du poteau, là, ce monsieur-là, là, ça fait des mois qu'il ne parle pas. Aujourd'hui, il a chanté avec vous presque du début à la fin. Hein, ça veut dire que la musique... C'est bon pour le cœur, c'est bon pour la mémoire, ça nous ramène à la vie. Alors, c'est pour ça, tantôt, je faisais mon tannant, là, lorsque tu m'as salué en ouverture, je me suis mis à faire tom, 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 tom. Mais c'est ça. C'est parce que la chanson, c'est pas rien. Quand on était tout petit, la plupart d'entre nous, on a reçu soit la tétée ou le biberon à côté sur la poitrine de notre maman en écoutant notre mère souvent qui fredonnait des chansons. Moi, ma mère, c'était « Partons, la mer est belle ». Et ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais lorsqu'on est tout petit, les premiers signaux sonores, vibratoires qu'on enregistre viennent de notre mère. Et si notre mère nous transmet sa culture... Ça nous marque jusqu'à la fin de notre vie. C'est comme dans notre mémoire cellulaire, la culture. C'est pour ça, d'ailleurs, que la chanson française a réussi à survivre en Amérique du Nord. C'est sûr que le clergé a eu une action particulière, mais avant tout, ce sont les mamans qui ont sauvé la culture québécoise, française, en Amérique du Nord. Ici, c'est vraiment incroyable. J'ai donné pendant d'ailleurs une quinzaine d'années, Michel, dans les écoles secondaires, je donnais un cours sur l'histoire de la chanson du Québec pour les élèves du secondaire. C'est un cours d'initiation. Et c'était fascinant de voir des jeunes qui normalement boudent la chanson francophone découvrir plein de pans de notre histoire, parce que je me contentais pas de leur chanter une chanson de Félix ou du groupe La Chicane ou de Mes Aïeux ou de Offenbach. Non, je leur expliquais le contexte idéologique, politique, social dans lequel les chansons avaient été composées. Comme La Bolduc, Mary Travers, c'est pas pour rien qu'elle chantait ce qu'elle chantait. Elle chantait pour les gens simples, souvent pauvres, parce qu'on était dans une période de grande crise économique. Alors, c'est fascinant de voir ça. Et c'était de constater que les jeunes, après ça, retournaient vers leurs parents pour leur dire « Hey, papa, aujourd'hui, j'ai découvert le ya-ya de Joël Denis, etc. » Là, je fais mon tannant, mais c'est vrai. On les faisait danser dans les classes, d'ailleurs, et je suis allé donner cet atelier-là souvent, souvent à Saint-Romuald, jusqu'à Baie-Comeau, Valleyfield, etc. Et c'est toute région confondue, peu importe, les jeunes aimaient ça, découvrir les racines culturelles francophones. Bon, c'était la portée du cours, là, c'était assez incroyable. Et après ça, on les invitait à inventer des nouvelles paroles sur une chanson connue. Là. Celle qu'on a le plus utilisée, c'était « Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent ». Parce qu'on leur apprenait que dans une composition de chanson, il y a des mathématiques aussi. Michel Rivard, l'auteur-compositeur ben principal oui, du groupe Beau Dommage, composait beaucoup avec des six pieds qu'on appelle ta-di-ta-ta-ta-ta. Alors, on apprenait les maths, la poésie, l'humour et la morale un peu avec tout ça. Alors, c'est extraordinaire. Alors, c'est normal que nos aînés, si on leur chante des chansons, peut-être pas du Metallica puis du death metal, mais des chansons de leur temps, ça va leur faire beaucoup de bien. Ça va leur faire beaucoup de bien. Et je trouve ça de valeur parce que, tu vois, au mois de mai, dans les semaines qui viennent, j'étais censé reprendre avec les Crooners une série de spectacles en hommage aux Crooners québécois, spécifiquement au Casino de Montréal. Ça devait commencer le 4 mai. Et puis, on devait faire une dizaine de représentations à Montréal, dont une au Capitole de Québec. Mais finalement, tout ça a été annulé à cause, justement, des politiques de confinement là, et de distanciation sociale. Fait qu'on sait que souvent dans les salles de spectacle, les gens sont un peu collés. Et puis, les crooners chantent beaucoup de chansons romantiques. Fait que dans ce temps-là, les gens ont tendance encore plus à se coller. Hein.
Ben
fait
oui.
C'est ça, mais c'est de valeur, mais je me dis, bon, peut-être que chaque station de radio locale, peu importe s'ils font partie d'un grand réseau ou d'un réseau moyen, ou peu importe, mais devrait réfléchir à ça. Tout simplement, ça contribuerait à la santé mentale. Voilà.
Absolument. Hey, Yvan Pion, le fredonneur, tu es un humain fascinant. Je souhaite vraiment et sincèrement avoir la chance de te reparler prochainement. Ça a été. Écoute, la demi-heure a passé beaucoup trop vite.
C'est vrai, hein? Déjà. Mais ça a été un immense plaisir pour moi. Je pense que je vais déménager à Lévis, je pense.
Ben, avec nos nouvelles technologies, tu serais peut-être même pas obligé de déménager.
Ouais,
on va
vrai,
se reparler, tu vas voir.
C'est un réflexe de confiné. On veut toujours voyager quand on est confiné, c'est bien connu.
Ben oui. Donc, merci beaucoup, Yvan, et on se reparle très bientôt.
Merci, Michel. Ne te gêne pas pour me rappeler, ça va me faire un grand plaisir.
Parfait. Et voilà, vous êtes à Prends Merci. Ton gaz égal. Nous continuons avec la chronique lutte de l'autre côté de la pause publicitaire et un petit peu musicale et la météo. Donc, restez là, ça ne sera pas très long.
Salut, ici Karine Gardner. Vous écoutez Nike Radio, la station qui redonne le pouvoir aux artistes.